Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la démonologie. Ceci est une suite, la deuxième partie ou la troisième, mais c'est une suite de ce que j'avais déjà fait autrefois. C'est un complément. Nous arrivons à l'étude numéro 8 et le titre sera « L'esprit et le monde spirituel ». Chers amis, à une autre époque de développement sans précédent de l'occultisme et du péché, je trouve intéressant de remarquer qu'il n'y a sans doute eu aucune autre époque où les chrétiens dans l'ensemble aient moins cru à l'existence du monde spirituel de Satan et de son royaume. En effet, aucun des auteurs de la Sainte Bible n'a éprouvé la nécessité de donner un enseignement sur la réalité du monde spirituel parce que, tout simplement, dans son ensemble, la population croyait en ce monde et connaissait, en effet, l'existence de l'occultisme. Par exemple, il est un fait que du temps de Moïse, le Seigneur n'a pas eu besoin de définir ou de décrire les pratiques occultes parce que le peuple en général savait très bien de quoi il était question. Les Israélites venaient juste passer 400 années au milieu de la culture égyptienne qui était profondément plongée dans l'occultisme et le culte des démons. Mais de nos jours, les chrétiens n'ont aucune idée de ce que est un sorcier ou un nécromancier, ou de ce que la divination signifie. La Sainte Bible, dans le Deutéronome, au début de votre Bible, au Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 12, dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, oui, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, et personne qui interroge les morts. Vous avez bien compris, nous ne devons même pas interroger les morts, ce que pourtant certaines églises permettent. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. On a dit Deutéronome, chapitre 18, verset 9, jusqu'au verset 12. Le Seigneur n'avait pas besoin de définir les termes énumérés dans ces versets, parce que le peuple savait, oh oui, et comment. Ce peuple savait de quoi il parlait. Ils en étaient exactement de même au temps de Jésus et de la rédaction du Nouveau Testament. La connaissance de l'occultisme et des démons était répandue. En fait, il était bien connu que les démons pouvaient faire toutes sortes de choses. Au temps de notre Seigneur, la croyance aux démons était si répandue, ainsi que la croyance à la puissance qui en résultait lorsque on faisait appel à eux, que même le fameux historien très connu en ce temps-là, Josephus, prétendait que la puissance de conjurer et de chasser les démons, ainsi que la guérison par des méthodes magiques, remontait au roi Ézéchias, qui en aurait reçu la révélation de Dieu. Josephus déclare du reste lui-même avoir été témoin d'une telle guérison miraculeuse obtenue par la répétition d'une formule magique. Ceci permet donc de comprendre pourquoi les scribes prétendaient que les guérisons miraculeuses faites par notre Seigneur étaient dues à une puissance démoniaque, rappelez-vous. Et vous pouvez voir tout cela vraiment d'une façon beaucoup, beaucoup plus approfondie dans The Life and Times of Jesus the Messiah, La vie et l'époque de Jésus le Messie, par Alfred Edersheim, volume 2, Hildmann's Publication, 1947. Voyez-vous, nous devons nous rappeler ici que la pratique de la magie était strictement interdite aux Israélites et que, du moins en principe, ni la sorcellerie ni la magie n'étaient censées avoir de l'effet sur Israël tant que Israël connaissait et que Israël servait son Dieu. Mais dans ce domaine également, nous croyons à présent que la théorie et la pratique ne concordaient pas. Ainsi, dans certaines circonstances, la répétition de formules magiques avait été déclarée. L'Égypte était considérée comme étant le berceau de la magie. En rapport avec elle, il est bon de noter que même le Talmud, ensemble décrit que les rabbins avaient déclaré avec force de loi, attribue les miracles de Jésus à la magie qu'il aurait apprise pendant qu'il était en séjour en Égypte. Il aurait alors pris soin, c'est ce qu'ils disent, à son départ, de dissimuler sous sa peau, je ne sais pas comment, les règles et les formules magiques, car tout voyageur était fouillé lorsqu'il quittait l'Égypte de peur qu'il ne révèle à d'autres pays les mystères de la magie. Combien les choses sont différentes aujourd'hui, chez nous, les chrétiens. Dans leur ensemble, les chrétiens n'ont aucune idée de ce qui constitue l'occultisme. Et c'est pourquoi tant de chrétiens tombent carrément dans les pièges de Satan. Et cela, évidemment, par ignorance. Aujourd'hui, nous avons besoin d'acquérir une connaissance, je dis bien d'acquérir, une connaissance élémentaire de l'occultisme afin de ne pas tomber dans le piège consistant à l'accepter comme venant de Dieu. Les pratiques occultes sont très répandues dans les églises chrétiennes. Bien trop de chrétiens se tournent de plus en plus vers des pratiques occultes acceptées par la médecine, oui, aujourd'hui, et en plus vers diverses formes de divination ou de bonnes aventures et vers bien d'autres abominations occultes. Voyez-vous, les Saintes Écritures sont très claires. Dès que vous avez un contact quelconque avec l'occultisme, vous souillez. C'est confirmé par le livre de Lévitique, toujours au début de votre Bible, chapitre 19, verset 31. Veuillez noter, s'il vous plaît, également Osée, chapitre 4, versets 6 et 7, où il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Eh bien, moi, j'oublierai aussi tes enfants. » Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je chargerai donc leur gloire en ignominie. Mes bien-aimés en Christ, s'il vous plaît, réveillons-nous et purifions-nous d'une telle souillure. Le but de ces études, c'est de vous aider à comprendre ce monde occulte, ce monde qui se développe si rapidement, non seulement afin de vous purifier de toute souillure reçue par toute pratique occulte que vous aurez faite, mais aussi pour vous permettre d'en éviter les pièges. Pour comprendre le monde occulte, il est essentiel que le chrétien comprenne l'esprit humain et l'existence du monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a que deux maîtres et il n'y a que deux sources de puissance, c'est-à-dire Jésus-Christ ou Satan. La puissance de Satan est limitée, la puissance de Jésus-Christ est la puissance absolue et illimitée du Dieu tout-puissant. Le but, voyez-vous, le but central de tout occultisme, ce but est établi et de maintenir, c'est d'établir et de maintenir le contact. C'est bien ça. Je le répète, le but central de tout occultisme dans ce monde est d'établir et de maintenir le contact avec le monde spirituel et les esprits qui y demeurent. L'occultisme maintient donc ce contact avec le monde spirituel pour avoir de la puissance. Tout être humain habitant sur cette terre désire avoir la puissance. C'est épouvantablement vrai. Ce désir est à la racine même de notre nature de péché. Satan est bien trop heureux de fournir aux hommes une puissance mensongère pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Il fait cela pour les empêcher de se tourner vers le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Hélas, les chrétiens, qui sont des hommes ayant une nature de péché, désirent aussi la puissance, c'est plus fort qu'eux. Satan a donc réussi à séduire profondément les églises chrétiennes en faisant croire aux chrétiens qu'ils expérimentent et qu'ils utilisent la puissance de Dieu alors qu'ils ne font que utiliser une puissance démoniaque. Je ne dis pas cela pour toutes les églises, évidemment pas, mais ça existe. Si le chrétien veut tenir ferme dans la sainte parole de Dieu et résister à cette puissance offensive de Satan, il doit avoir, par les saintes écritures, une bonne, même une très bonne compréhension de l'esprit humain et du monde spirituel. Comment pouvons-nous, chers amis, nous qui sommes des créatures physiques, établir le contact avec un monde spirituel qui n'est pas physique? Eh bien, nous trouvons la réponse dans l'Écriture sainte. C'est parce que Dieu nous a fait à son image, de même qu'il constitue une trinité, il a créé chacun de nous en trois parties. Nous avons donc un corps physique, une âme et un esprit. Et c'est par notre esprit que nous pouvons entrer en contact avec le monde spirituel. Ceci est vrai à la fois pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit uniquement conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'apôtre Paul nous enseigne qu'en tant qu'être humain, nous sommes constitués de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et il déclare très clairement que ces trois parties doivent toutes trois être purifiées et consacrées uniquement à Jésus, et que Jésus lui-même doit nous rendre capables de conserver ces trois parties irréprochables jusqu'à son retour. Irréprochables jusqu'à son retour. Je crois qu'au commencement, avant la chute, Dieu avait créé l'homme en trois parties, et que cette Trinité était dans une parfaite unité, exactement comme Dieu lui-même est dans une parfaite unité. Oui, parce que Dieu est lui-même dans une parfaite unité, et au début, avant la chute, il a voulu cela aussi pour l'homme. En d'autres termes, le corps, l'âme et l'esprit étaient parfaitement unis. Il est dit dans la Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Je crois que, avant leur chute, Adam et Ève possédaient beaucoup de capacités que nous n'avons plus du tout aujourd'hui, car nous sommes des êtres humains déchus. Pourquoi possédaient-ils ces capacités? À cause de la parfaite unité de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Où pouvons-nous trouver un autre exemple d'homme parfait? Eh bien, c'est uniquement en Jésus-Christ. Jésus-Christ était absolument sans péché. Dans de nombreux passages de l'Écriture sainte, il est du reste appelé le second ou le dernier Adam. Vous pouvez trouver tout cela dans les saintes Écritures. Même après sa résurrection, Jésus avait toujours un corps physique. Cependant, c'était un corps physique glorifié, semblable à celui que nous aurons un jour. Les Saintes Écritures nous disent qu'un jour, nous aurons un corps exactement semblable à celui que Jésus possédait aujourd'hui, que Jésus possède aujourd'hui, pas possédait, excusez-moi, mais qu'il possède. Et en ce jour-là, nous serons rétablis dans un état absolument semblable à celui qui précédait la chute, donc comme avant, et les êtres humains seront à nouveau, dans une unité absolument parfaite. Quelles étaient, chers amis, certaines des caractéristiques de cet état parfaitement uni avant la chute? Eh bien, nous les voyons en Jésus, particulièrement après sa résurrection. Après sa résurrection, Jésus pouvait faire avec son corps physique tout ce qu'un esprit peut faire, comme par exemple passer au travers des murs. Je crois que la chute a entraîné une coupure terrible. Le corps, l'âme et l'esprit ne se trouvaient plus du tout dans la relation qu'ils avaient entre eux au départ. Réfléchissez un simple moment. Quelle est, d'après vous, l'une des premières caractéristiques d'une personne qui est complètement possédée par des démons? Eh bien, c'est d'abord une force surnaturelle. Cette force résulte du fait qu'un esprit contrôle le corps. Et dans ce cas, il s'agit d'un esprit démoniaque. Ceux qui pratiquent, par exemple, les arts martiaux s'efforcent d'acquérir des capacités surnaturelles pour leur corps physique. Et ces capacités ne sont possibles que lorsque l'esprit contrôle le corps. Je dis bien que lorsque l'esprit contrôle le corps. Depuis la chute, nous ne pouvons plus contrôler consciemment notre esprit. Mais par contre, les occultistes doivent réussir à établir ce contrôle pour être en mesure de rester en contact vital avec le monde spirituel. Tout le domaine occulte est bâti sur de nombreux mensonges. Satan et ses démons ne veulent pas que les êtres humains comprennent ce qu'ils font. Ils inventent donc des mensonges et accomplissent des miracles mensongers pour confirmer ces mensonges. L'un de ces mensonges, c'est celui du troisième œil. Voyez-vous, le troisième œil, cela remonte à l'Antiquité. Le fait d'avoir un troisième œil, comme certaines femmes hindoues que vous avez sûrement vues parfois quand ils viennent en Europe, cela donne la capacité de voir ou d'entrer en contact avec des esprits. Voyez-vous, notre cerveau est comme un ordinateur qui aurait deux entrées. Lorsque nous voyons quelque chose sur le plan physique, l'image va de la rétine de notre œil physique jusqu'à notre cerveau par l'intermédiaire de certains nerfs spéciaux. L'image de l'objet physique est ensuite créée dans notre cerveau et nous voyons. Il en est de même pour les objets ou esprits situés dans le monde spirituel. La seule différence, c'est que les informations que nous parviennent ou parviennent pas par notre œil physique, mais ils parviennent par notre esprit. C'est là la différence. Voyez-vous, notre cerveau, il est absolument capable de recevoir deux ensembles d'images à la fois, c'est-à-dire des images qui sont du monde physique et des images qui sont du monde spirituel. Cependant, les démons n'enseignent pas les hommes sur l'existence de leurs esprits. Ils leur font plutôt croire, ils leur font croire à l'existence d'un troisième œil. Et parfois, les démons créent donc ainsi littéralement un troisième œil physique, mais mensonger. Et cela au centre du front. Donc, c'est une information qui est reçue par l'œil physique, qui voit ainsi le monde physique. Le troisième œil, c'est l'information reçue par l'œil spirituel qui voit le monde spirituel. Donc les occultistes croient que ce troisième œil leur donne la faculté de voir le monde spirituel. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, ils sont en train d'utiliser leur propre esprit. Ce pouvoir d'utiliser le troisième œil est aussi appelé pouvoir médiumnique. À l'heure actuelle, nous assistons à un développement massif du mouvement du Nouvel Âge avec tout un ensemble de termes nouveaux. Parce que, voyez-vous, le troisième œil est situé au centre du front, les adeptes du Nouvel Âge parlent de centrage au lieu de parler du troisième œil. Le centrage, centering, est un terme du Nouvel Âge qui désigne le processus permettant d'entrer en contact avec le monde spirituel. En fait, comme Satan accumule mensonge sur mensonge, les anciens termes occultes ne sont plus utilisés. Et nous avons à présent de nouveaux termes à consonance scientifique, s'il vous plaît. L'une des choses les plus importantes qu'un chrétien puisse faire est d'exiger une définition des termes qui lui sont présentés. Il faut qu'il sache exactement ce que les mots signifient. Prenons un simple exemple. Rappelez-vous qu'il n'y a que quatre sortes d'esprits. Il y a les esprits démoniaques, il y a les anges au service de Dieu, il y a les esprits humains et il y a Dieu lui-même. Voici donc les termes employés par le Nouvel Âge. Ce sont des mots qui désignent l'un des quatre esprits mentionnés. Tout d'abord, énergie, vibration électromagnétique, l'homme intérieur, l'esprit humain, le conseiller, c'est-à-dire le conseiller, c'est un esprit démoniaque que l'on appelle en général esprit guide ou esprit familier, entité, une force, puissance supérieure, atman, terme spécifique utilisé par l'hindouisme pour définir l'esprit humain, prana, ou force de respiration, employée dans le yoga pour attirer le flot de puissance spirituelle. Et voici d'autres termes qui définissent des contacts avec le monde spirituel. Réalisation de soi, c'est-à-dire la capacité de contrôler notre propre esprit afin de réussir à contacter le monde spirituel. Un état supérieur de conscience, contact avec les esprits et avec le monde spirituel. Un état de conscience divine, contact avec le monde spirituel. En effet, les adeptes du Nouvel Âge pensent que le monde spirituel tout entier est Dieu. Ils ne font aucune différence entre les esprits qui sont créés et le Dieu créateur. Il y a pour eux le niveau alpha ou theta, un terme employé par le contrôle mental Silva et par d'autres milieux. Il s'agit là d'un état de transe où l'on établit un contact avec le monde spirituel. Dans un tel état de transe, les ondes cérébrales, alpha ou theta, prédominent dans l'électroencéphalogramme. C'est donc le fameux contrôle par l'électroencéphalogramme, d'où l'utilisation de ce terme pseudo-scientifique. Donc, il y a l'hémisphère gauche, ainsi qu'il y a l'hémisphère droite de notre cerveau. Toute cette théorie, elle est bâtie pour permettre d'entrer en contact avec le monde spirituel. Lorsque vous commencez à définir ces termes, vous commencez à comprendre que vous êtes en train d'établir un contact avec le monde spirituel, ce qui est absolument interdit par Dieu. Chers amis, il n'existe absolument aucune vibration ou énergie impersonnelle qui puisse être utilisée ou contrôlée par les hommes. Toute énergie spirituelle est produite par une personne très réelle. Elle réside dans l'esprit de l'une des quatre personnalités mentionnées, c'est-à-dire les démons, les anges, les hommes ou Dieu. Les êtres humains ne peuvent pas contrôler Dieu ni sa puissance en aucune manière. Par conséquent, si vous arrivez à contrôler une énergie qui provient du monde spirituel, eh bien, vous êtes en train d'utiliser des démons. Du reste, tout au long des siècles, Satan a constamment utilisé trois méthodes pour permettre aux hommes de contacter le monde spirituel. Premièrement, il a utilisé les drogues, le LSD et beaucoup d'autres. Deuxièmement, il y a la méditation, il y a l'hypnose, il y a les états de transe qui impliquent tous de faire le vide, je dis bien et je le répète, de faire le vide dans nos pensées. Et troisièmement, il y a la visualisation et l'imagerie ou imagination guidée. Les drogues qui modifient les états de conscience ont été utilisées dans le monde entier et dans toutes les cultures par les sages, par les chamans ou les sorciers pour entrer en contact avec les esprits. Il est donc intéressant de remarquer que les satanistes occidentaux de très haut niveau n'éprouvent aucun intérêt à prendre des drogues telles que le LSD. Pourquoi cela? Mais parce que ils n'ont pas besoin de tout cela pour voyager. De toute façon, ils peuvent voir le monde spirituel presque en permanence. Pour ce faire, ils n'ont pas besoin d'une drogue comme le LSD ou autre chose. Les voyages faits après absorption de ces drogues-là ne sont rien de plus ni rien de moins que des expériences réalisées dans le monde spirituel. Les démons, Ces démons sont des maîtres en matière de tromperie. Ils peuvent, sur le plan spirituel, changer le décor exactement comme cela se fait dans l'industrie cinématographique. Si vous visitez les studios de l'industrie cinématographique où l'on tourne beaucoup de films, vous pouvez marcher dans une rue de western, tournez dans une autre rue et vous vous retrouverez dans l'Angleterre du 18e siècle. Vous tournez dans la rue suivante et vous voilà dans une autre époque et un autre pays. Les démons, eux, ils peuvent faire exactement la même chose dans le monde spirituel. Ils peuvent créer ainsi toutes sortes d'illusions pour tromper les hommes qu'ils contrôlent. Voyez-vous, les religions orientales sont centrées sur la manière d'entrer en contact avec le monde spirituel, et pour ce faire, elles ont mis au point des formes de méditation qui font appel à des techniques de relaxation pour faire le vide dans les pensées. Les Saintes Écritures nous disent que c'est nous qui avons la responsabilité. En effet, selon la Sainte Bible, nous avons et nous sommes responsables de contrôler nos pensées à tout moment, selon 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Et lorsque nous faisons le vide dans nos pensées, chers amis, les démons peuvent alors totalement librement prendre le contrôle de nos pensées. Enfin, la visualisation ou imagerie guidée est une très ancienne technique permettant d'entrer en contact avec le monde spirituel. Et cette technique a causé à elle seule la chute de milliers de chrétiens dans le piège de l'utilisation de techniques occultes, mais qui font, oui, que font, chers amis, que font les gens, dit Mention, qui parviennent à entrer en contact avec le monde spirituel, que font-ils? Eh bien, en réalité, ils parviennent à contrôler consciemment leurs esprits. Ne sachant comment appeler ce contrôle, j'ai dit qu'il s'établit alors un contact ou un lien entre l'âme et l'esprit. D'une certaine façon, l'intellect conscient parvient à contrôler l'esprit de telle sorte que l'on peut alors utiliser son esprit pour voir, oui, pour voir, dans le monde spirituel et pour communiquer avec les esprits qui se trouvent dans le monde spirituel. Rappelez-vous que notre corps physique ne peut aucunement voir ou communiquer avec le monde spirituel invisible. Cette communication ne peut se faire que par notre esprit. Normalement, nous ne pouvons pas communiquer avec le monde spirituel tant que ce lien n'est pas établi entre l'âme et l'esprit. C'est donc ce lien entre l'âme et l'esprit qui a été rompu lors de la chute de l'homme. Les trois techniques qui sont utilisées par les occultistes du monde entier pour parvenir à contrôler leurs esprits, il est intéressant de remarquer que lorsque une personne sort de l'occultisme pour venir à Jésus-Christ, elle ne perd pas tout de suite cette capacité-là. Non, non, non. Et cela tant qu'elle n'a pas, d'une manière spécifique, demandé au Seigneur Jésus-Christ de trancher entre son âme et son esprit, selon Hébreux, notez bien Hébreux, le livre Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 4, verset 12. À de très rares occasions, il arrive de demander au Seigneur de trancher entre l'âme et l'esprit de personnes qui n'étaient pas venues à Christ. Et lorsque le Seigneur exauce cette requête-là, eh bien ces personnes perdent instantanément, alléluia, leurs aptitudes à communiquer avec le monde spirituel. Il est donc clair, et nous terminerons cette étude aujourd'hui, il est donc clair que ce n'est pas la volonté du Seigneur, mais pas du tout, que ceux qui appartiennent à son peuple, qu'ils puissent contrôler ainsi leur esprit. Notre esprit doit être directement contrôlé par le Saint-Esprit et pas par notre âme. Et c'est donc là la différence essentielle entre l'occultisme et le christianisme. Les occultistes établissent à volonté un contact avec le monde spirituel et ils contrôlent ainsi, dans une large mesure, la puissance qu'ils utilisent. En revanche, les chrétiens ne sont jamais en contact avec le monde spirituel, sauf à de brèves occasions, lorsque le Saint-Esprit permet de tels contacts. Les chrétiens ne contrôlent en aucune façon la puissance de leur Dieu. Les chrétiens ne sont que des serviteurs. Nous sommes que des serviteurs. Le Seigneur œuvre donc par le moyen de ses serviteurs et de ses servantes comme il le trouve bon et non comme eux le trouvent bon ou comme eux le désireraient. Les démons coopèrent avec les hommes pour leur donner une puissance que les hommes peuvent ainsi utiliser quand ils le veulent et pour les attirer toujours plus loin du Seigneur. On voit cela à la télévision quand vous voyez un de ces disciples de Satan, entre guillemets, évidemment, on ne le dit pas à ceux qui sont présents à la télévision, sur le studio, ou ceux qui regardent la télévision, et là on voit donc comment une femme va s'élever en l'air, rester en l'air, sans aucune personne qui la tiendrait ainsi, sans rien, ni dessous, ni dessus, ni à côté, mais vraiment miraculeusement, entre guillemets. Mais ça, c'est fait par la puissance des démons. Chers amis, veillons donc à marcher dans la foi et dans l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne laissez pas le désir coupable d'avoir la puissance vous entraîner dans les pièges de Satan. Nous allons maintenant prier ensemble, mais avant j'ai reçu dans mon cœur de vous transmettre quelque chose. Oui, quelque chose pour vous encourager, mais aussi pour votre édification personnelle. J'aimerais vous communiquer cela maintenant. Croissez chaque jour un peu plus à la ressemblance de Jésus-Christ. En toutes circonstances, faites ce qu'il vous demande et puis confiez-vous à lui pour ce qui est des résultats. Si vous ne voulez rien être d'autre que ses témoins, alors pourquoi vous mettre en peine au sujet de ce qu'il vous propose et si c'est sage ou non? Voyez-vous, la raison et l'essence ne doivent pas contester en vous les exigences de l'esprit humain éclairé par l'esprit de Dieu, ce serait un obstacle. Alors mettez-y bon ordre. Il faut une action cohérente de l'être, autrement l'harmonie intérieure, si nécessaire, est détruite. Dans un orchestre, il peut arriver qu'un instrument surpasse en beauté tous les autres, mais l'harmonie de l'ensemble est impossible s'il ne s'intègre pas parfaitement dans leur jeu. Et il en va de même pour vous. Tout manque d'harmonie intime se traduit par un sentiment d'échec de la vie elle-même dans son ensemble. Plus de crainte aucune. Et oui, vous n'avez plus besoin d'être dans la crainte. Nous sommes autant des merveilles qui vont en augmentant. Vous serez conduit en tout à la condition que vous vous mainteniez dans les secrets du Très-Haut. Souvenez-vous que c'est là, dans ce lieu secret, que furent et que seront toujours élaborées les merveilles de l'univers. Et c'est là aussi que s'élabore le plan merveilleux de votre vie personnelle. Ce saint des saints, c'est le foyer de la création. En vous y maintenant, par l'adoration et la prière, eh bien vous devenez ouvrier avec Dieu. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, ta bonté ne se lasse point de nous protéger, de nous bénir. Tes bienfaits surpassent notre faible intelligence. Les profondeurs de ta miséricorde sont insondables. Puissions-nous, par ton secours, ne pas mépriser tant de grâces précieuses, ne point fermer nos cœurs à tes appels, mais répondre avec promptitude, avec joie, aux paroles de vérité que tu nous adresses. Seigneur, tu sais combien ces cœurs renferment l'incrédulité de misère et de passion. Tu sais que nous sommes d'argile et tu as pitié de nous. Tu ne daignes pas de t'abaisser jusqu'à tes faibles créatures. Et dès que nous te cherchons, tu te fais trouver en nous. Tu es tout-puissant pour nous combler de toute grâce, et tu nous as donné en ton Fils bien-aimé la vie éternelle. Confions-nous donc en lui en tout temps, et qu'en lui seul, en Jésus, soit notre espérance. Que le sentiment de notre misère nous attache à ce divin Sauveur, que nous sentions la force irrésistible de son pouvoir dans les âmes, et qu'ainsi nous puissions trouver la paix. Oh, bénis-nous pendant cette journée, regarde-nous avec compassion, afin de nous préserver de tous les maux auxquels nous pouvons être exposés. Sois au milieu de nous, protège nos amis et nos familles. Amen. Et merci Seigneur. Merci Dieu trois fois saint, Yahvé l'Éternel, El Shaddai, Elohim, notre Dieu merveilleux. Oh, Alléluia. Chers amis, et vous le savez maintenant, Dieu vous aime. Et comment? Et il est de mon devoir de vous aimer puissamment. Oui, et je vous embrasse maintenant tous, avec tout mon amour, l'amour agapé, par et en Jésus-Christ, ensemble. Et à bientôt à nouveau, demain Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.